Par-delà les montagnes hallucinées, enregistrement audio d'une campagne de jeu de rôle basée sur l'œuvre d'Howard Phillips Lovecraft et les scénarios de Charles et Janice Engan, publié par Chaosium en anglais et Sans Détour pour l'adaptation en français. Jean-Michel Abrassard. Mourad Brix interprète le rôle du manœuvre Hidalgo Cruz.
On avait laissé, on pensait qu'il avait laissé le matériel. Et il avait piégé le truc, et ça s'est écroulé. Je me retrouve avec les deux Allemands dans un réseau de galeries.
Rilke et. Manoir.
Absolument. La bonne nouvelle, c'est que j'ai mis la main sur le matos, puisqu'il avait quand même mis le vrai matos aussi dans la même pièce.
Exactement, ouais. Et donc, tu avais eu une perte de points de vie liée à la chute. Mais ça n'aurait pas été trop dramatique si mes souvenirs sont bons.
Non, c'est
trois
ça.
Trois points par-ci, par-là, quoi.
Ouais, je suis à 14 points de vie sur 18.
Ouais, donc ça va, quoi. Enfin, t'es blessé, mais c'est pas excessif. Donc, tu te retrouves au niveau de l'abîme. Bon, évidemment, tu es dans l'obscurité complète. Tu es vraiment dans les niveaux les plus profonds de la cité. Tu avais effectivement fouillé tes environnements, ton environnement, et tu avais retrouvé à tâtons le sac avec les pièces. Puis tu avais retrouvé tu avais une lampe de poche aussi, hein, évidemment. Enfin, une lampe torche. Et puis tu avais réveillé un peu Mayer et Rilk, qui étaient un peu plus stone que toi parce qu'ils n'ont pas tes caractéristiques au niveau
physique.
Ils ont moins bien pris la chute que toi. Et tu avais constaté donc que tu t'étais retrouvé vraiment dans les profondeurs. Et donc en fait tu es dans un couloir, mais... Oui. Alors je te préviens, on est dans une partie un peu donjon, donc on va devoir s'amuser à faire un plan.
Chouette.
Il y a deux trucs, la porte et le donjon.
Alors, qui passe devant?
Je cherche un pied.
Je cherche une porte secrète. Je loot le... Spotidon, c'est vigilance? C'est possible, ça? Ouais, ça a l'air d'être
ouais,
ça.
Ouais, c'est possible.
Waouh. Ah oui, et trouver objet caché?
Trouver objet caché, c'est Spotidon.
Et vigilance, c'est quoi alors?
Je ne sais pas.
Et en fait, c'est la même chose, je pense. Ça va l'air de Spotidon, parce qu'on l'utilise pour la vigilance aussi, en fait.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Donc, à mon avis, c'est la même chose, mais là, ils ont décidé d'en faire deux compétences. Survie. Polaire.
Oui, ça, c'est juste pour rajouter polaire.
Je vais faire les deux en même temps, ok. Bah, on est dans le noir. Est-ce que j'ai du matériel, des torches ou quoi que ce soit
Donc, t'as allumé ta torche.
Dans mon kit de base, ah, ok, ça j'ai.
Et puis, ouais, parce que sinon tu ne t'en sortirais pas. Donc il fait extrêmement sombre malgré la torche, donc faut imaginer que t'es dans une très grande obscurité, vu que t'es vraiment dans une opération, tu sais, tu fais de la spéléo là.
Ouais, donc le rayon, je présume, de lumière de ma torche, c'est quoi, un mètre, deux mètres?
C'est ça quoi, donc quelque tu chose vois pas grand chose. Mais ce que tu constates, une fois que donc Mayer et Rick est réveillé, c'est que tu te trouves dans une pente, donc en fait dans une sorte de couloir. Mais évidemment, le couloir a été détruit par l'éboulement. Donc, tu n'as qu'une seule direction dans laquelle tu peux te diriger.
D'accord. Bah,
En regardant avec la lampe torche, tu vois qu'il y a des traces de choses très anciennes qui ont récemment emprunté ce couloir.
Oh merde.
Mais donc, évidemment, elles venaient probablement par ici. Quoi.
Avant, ouais, avant. Ouais, ouais, ouais.
Mais. Donc tu constates toutes sortes de trucs.
Aussi, bon.
Ce que tu remarques, mis à part le passage des choses très anciennes, c'est que donc tu te trouves dans un tunnel, mais le sol est lisse. Le sol de la galerie est lisse.
Donc il est travaillé, quoi.
Oui, il est travaillé. Voilà, il est plat. Par contre, en hauteur, t'as encore les stalagmites et tout ça. Mais le sol lui-même, il est comme poli, comme ça. Ce qui te permet d'ailleurs de voir les traces des choses très anciennes.
Ok, ben écoute, j'ai ma torche dans une main et mon gourdin dans l'autre. pas que je pense que ce soit très utile, mais bon.
Voilà, donc en fait, t'es en train de descendre maintenant avec les deux Allemands. Et comme je t'ai dit, en fait, c'est... Le sol il est en pente, hein, il s'enfonce, et comme il est tellement lisse, t'as un peu du mal à descendre, je veux pas te faire faire de jet de dé pour ça.
Ok, donc il faut se tenir un petit peu au mur, et... Ok, d'accord.
À un moment, ton personnage te demande même si ça serait pas plus facile de se laisser glisser, mais bon, comme tu sais pas où ça arrive, t'es pas très chaud.
Ouais, c'est ça, quoi. Je comprends, ben on y va précautionneusement.
Et donc le passage donc, descend sur 80 mètres, et puis tu arrives dans une dépression ronde... où il y a des gravats, etc. Mais l'air est chaud, plus respirable, et tu sens une odeur de vieille moisissure.
Okay.
Et il y a toujours les traces des choses très anciennes. Tu continues donc évidemment parce que tu n'as pas le choix dans la même direction.
Mais c'est ça quoi.
Et tu te diriges toujours tu sens que l'air est de plus en plus chaud. Il y a des traces de vie qui apparaissent maintenant, donc des lichens, des champignons, dans la galerie où tu te trouves. Et donc tu marches sur plus d'un kilomètre et demi, et là tu te retrouves dans une caverne relativement dégagée. Voilà, et alors donc tu te trouves sur une hauteur, hein, donc tu as descendu la pente, et... T'es sur une hauteur, puis t'as une chute, enfin une petite falaise de 3 mètres, et en dessous tu vois dans cette grotte, il y a énormément de manchots, alors c'est les fameux manchots.
Les manchots albinos.
Donc qui poussent des cris, etc. Tu les entends pousser des cris rauques et un peu bizarres.
Est-ce qu'ils nous ont repérés? Parce que je sais qu'ils sont aveugles. Enfin, il me semble qu'ils sont aveugles, si mes souvenirs sont bons, mais...
Oui, ils sont aveugles, donc pour l'instant, ils ne vous ont pas repérés. Tant que vous ne faites pas trop de bruit, ils ne vous repèrent pas.
Ça va.
Par contre, donc là, tu es sur la hauteur, tu contemples le spectacle. Tu vois ces albinos, juste pour te donner une idée, il y en a qui ont taille humaine, hein, donc pratiquement 2 mètres de haut.
Ah ouais, quand même.
Et en observant la scène, ils sont en train de se déplacer dans cette pièce. Tu peux voir que de l'autre côté de la salle où tu te trouves pour l'instant, il y a une sortie à cette pièce. Donc au niveau des albinos, mais ça, des manchots albinos, mais ça t'oblige de traverser la salle des manchots. Donc il y a une sortie de l'autre côté. Et alors aussi, ce que tu constates, c'est que certains des manchots tiennent des œufs entre leurs pattes.
Ouais,
et alors ils se déplacent comme ça... En poussant des cris.
Non, ils font pas de nid alors.
Non, les albinos sont les. Je vais dire albinos tout le temps, mais. Les manchots, albinos, c'est quand même des manchots, restent dans la salle. Et ont l'air de. que cette salle est leur territoire.
Est-ce qu'il y a de l'eau ?
Ils ne cherchent pas à partir ou...
Est-ce que j'entendrais, je sais pas, un courant ou un truc comme ça, où il y a une mer souterraine pas loin ? Est-ce qu'ils doivent, manger quand même
c'est... Oui, effectivement, en fait, tu entends peut-être un léger bruit d'eau plus loin. Il y a de la... Enfin, t'entends de l'eau qui s'écoule au loin, comme s'il y avait une rivière souterraine, quelque chose comme ça. Et...
Ok. Juste petite parenthèse, il n'y a pas grimper en français, il y a athlétisme. J'ai mis mon score de grimper à athlétisme. Ouais. En me disant que c'est vrai que grimper, c'est un peu limitatif. Alors voilà. Parce que je n'ai pas vu athlétisme non plus dans le...
Il y a aussi un astérix avec grimper, comme ça si jamais je dis grimper, tu te souviens, dans les prochaines parties.
Ou non, mais ça, je m'en souviendrai en fait.
Ça va, là. Alors avant, tant que vous êtes là, observez la scène... Tu constates que les traces de choses très anciennes s'arrêtent là, donc apparemment, puis rebroussent chemin. Enfin, il y a plus de traces de choses très anciennes après ce promontoire. Vraiment, enfin, elles peuvent être s'envoler du promontoire où vous êtes, mais t'as l'impression que les choses très anciennes venaient ici se fournir ou quelque chose dans ce style-là, quoi. Bah, pour ce mode-là, de toute façon, Rilke et Maier, ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire, mis à part essayer de traverser.
Bah, c'est ça, mais c'est ça qu'on va faire. Et en évitant le plus possible les manchots, et surtout ceux avec des œufs, en fait.
Mm-hmm. Oui, ceux avec des œufs ont tendance à être mieux du groupe de manchots, donc si vous escaladez les 3 mètres de descente et que vous contournez en longeant les parois, il y a moyen de minimiser.
Ouais, c'est ce qui me semble être... 48 pour manger de climb, les 62.
Ok.
Manger de d'escalade.
T'arrives à descendre donc de la paroi. Et donc, tu t'étais mis d'accord avec les deux Allemands, vous longez la paroi. Et en procédant de la sorte, y a les manchots s'excitent un peu, ceux à qui vous passez à proximité, mais ils ne sont pas spécialement agressifs. Mmh. Surtout si vous approchez pas des œufs, donc... Il caquette un peu, mais il vous laisse passer sans vous attaquer.
Très bien.
Ouais, donc, on était dans celle-ci. Une fois que tu as dépassé le groupe d'albinos, donc les manchots albinos qui sont là, tu as le couloir ici. Et.
Un embranchement.
Il y a un embranchement, vous savez ça. Montage. T'as un endroit de choix entre aller à droite ou à gauche. Bon, évidemment, c'est pas des couloirs, t'es dans des galeries de cavernes.
Ouais, ouais.
Mais je représente pas les.
Ben, je regarde voir s'il y a des signes qui indiqueraient quelque chose, qui me donnerait une idée de est-ce qu'on va plutôt à gauche ou plutôt à droite. Des traces, des. Je sais pas moi. Plus civilisé d'un côté, plus brut de l'autre. Ou, est-ce qu'il y a un courant d'air? Est-ce que je sens quelque chose ou autre?
Si tu fais vraiment attention à un courant d'air, effectivement, tu peux sentir un courant d'air qui vient de ce côté-ci.
On va plutôt tourner à gauche, alors.
Ok. Donc, tu arrives dans tu es dans un large couloir de pierre. On continue ici. Mm-hmm. Toujours difficile, parce que c'est pas des pièces, hein, donc c'est des structures naturelles, donc... Et donc dans ce couloir où t'es pour l'instant, il y a d'innombrables stalactites qui tombent du plafond et qui s'arrêtent juste au-dessus de votre tête, en fait. Et ça te donne l'impression subjective que t'es en train de rentrer dans une gueule pleine de longs crocs effilés. Et quand t'es dans cette scène-là, tu constates qu'effectivement le sol est recouvert de guano, des manchots de la salle précédente.
Ou de chauves-souris cachés entre les stalactites.
En tout cas, il y a des guano par terre.
Ok.
Et c'est vrai, mais il précise effectivement, sur le guano, tu remarques des empreintes de manchots qui ont marché dans le guano. Mais bizarrement, pour l'instant, dans cette salle-ci, il n'y a pas du tout de manchots. Les manchots restent dans la salle là, pas trop sans s'en venir ici. Et il n'y a pas de danger. Donc, vous déplacez dans la pièce.
Je ne perçois pas de danger.
Je ne perçois pas de danger.
Ce n'est pas la même chose.
Oui, tout est dangereux. Voilà. Mais ce qui te frappe, les deux Allemands,
c'est
qu'il y a au milieu de la pièce, tu trouves un empilement de poissons morts.
Ça doit sentir bon, ça.
Oui, les odeurs ici, ils les mentionnent régulièrement, mais c'est vrai que ça sent, dans cette scénario-là, ça pue. Donc c'est un empilement d'une cinquantaine de petits poissons, et tu remarques qu'ils ont des gueules anormalement larges et pleines de dents pointues.
Oui, enfin, c'est des poissons qui vivent dans l'obscurité.
Oui, et enfin, je veux dire que c'est des spécimens inconnus pour vous. Quoi.
Aussi, ok. Ouais, moi je m'en fous, je suis pas un scientifique.
Et ici, visiblement, ce groupe de poissons a été comme déposé là, comme pour une offrande.
Juste petite parenthèse. Mm-hmm. Sur la fiche ici, je vois il y a une section savoir impie créature connue. Dans la mesure où on ne peut pas perdre plus de points de santé mentale qu'un maximum, est-ce que je mettrais pas Shoggoth et Grand Ancien ici?
Ah oui, si, c'est ce que j'avais mis. Oui. Je les ai mis sur les feux que j'avais complétés. Shoggoth et chose très ancienne.
Oui,
Grand Ancien, c'est que tout le monde.
Ouais.
Et alors, tu peux mettre aussi.
Par contre, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a fait perdre quoi comme santé mentale en fait.
Je suis pas sûr que t'en aies perdu.
Si, on a vu les Shoggoth. Shoggoth 3, tu vois.
Ah oui,
j'avais marqué. Donc je suis déjà à 3. Et chose très ancienne, par contre, je ne pense pas.
Non, je pense pas, non.
J'ai quand même perdu 12 points au total, mais.
Ouais, c'était la trace de mes aventures. Mm. Tu peux aussi marquer Animacule. C'est la chose que vous avez vue quand vous étiez dans les. Le Pléistocène. Pour autant donner les noms des créatures, ça a été.
Animacule, ok.
Je pense le gros ours tordu.
Et là, je sais pas non plus si j'avais perdu des points. Il y avait pas un minimum ? On n'en perdait pas d'office, au moins un ou un truc comme ça ?
Non, vous avez pas. Je crois que c'est ce moment-là, t'avais pas perdu. J'avais pas. Non, quand vous étiez dans la tête de l'hominidé, vous n'avez pas perdu.
Ok, ça va. Ok. Là, voilà. Fin de la parenthèse. Donc, ok, il y a ce tas de poissons d'espèces inconnues qui réunit là au centre. Moi, ça me dit pas grand-chose qui vaille. Ça ressemble un peu à une espèce d'offrande, genre on est des manchots, prenez des poissons, ne nous bouffez pas. Gentil chevotte. Genre. Et les choses très anciennes, on ne sait même pas si ça
me tu... les manchots sont pas des créatures très intelligentes.
Non, je sais bien. Je sais bien, je redonne peut-être un peu trop de...
dire l'intelligence d'un manchot aveugle, c'est pas terrible à mon avis.
Bon, ben, je consulte vite les Allemands et je vois s'ils ont une raison de rebrousser chemin, et puis sinon on contourne les poissons et on continue à avancer.
Oui, ils ne donnent même pas le score d'intelligence parce qu'ils sont trop cons pour en avoir un. Bon, okay. Ça n'a pas besoin de d'intérêt.
Ça roule.
Moins de 6, quoi. C'est intelligence animale, moins de 6 pour l'appel. Oui, de toute façon, il n'y a pas, le choix. Hein. Ah oui, c'est vrai, si vous avez le tour là, mais pour eux, ils disent que comme vous sentez, c'est
ce petit courant d'air.
C'est probablement mieux de continuer.
On va avancer. Ouais.
Mais donc, quand tu passes cette salle-ci, là, tu vois une rivière souterraine en train de passer. Donc, c'était le son de la rivière souterraine que tu avais entendu. Évidemment. L'eau est glacée et probablement peuplée d'animaux du Pléistocène, enfin pas du Pléistocène, mais des formes de vie que tu trouves dans les abysses, donc ça te dit pas très fort d'aller nager là-dedans.
Après. Oui, non, je suis pas très suicidaire. Et en plus, là, j'ai que 25% en swim, donc.
Et donc à ce niveau-ci, tu retombes sur un nouvel embranchement. Et voilà, nouveau embranchement, t'as le choix entre aller à droite ou à gauche.
Bah juste pour t'emmerder, parce qu'on arrive au bord de la feuille, on va aller à gauche. Okay. Non, mais c'est un truc en labyrinthe, en fait, c'est que tu tournes toujours dans le même sens. Tu longes toujours le mur d'un côté. Donc on va continuer à longer le mur de gauche.
Donc, t'es en train de, tu t'es engagé donc dans la galerie de gauche, on se voit au milieu de la galerie de couloir, et tu commences à entendre des sons, un peu comme des Hong Kong. Tu arrives assez aisément à identifier les sons, parce que tu les as entendus sur la banquise. Enfin, ça t'évoque
les morses.
Oui, c'est ça, les fameux phoques de Weddell. Hein.
Ah, ouais, les phoques de Weddell, ouais, je vois très bien ce que c'est. Oh, ça c'est gentil, ça, les phoques de Weddell. Ouais, j'ai vu tout un reportage sur les phoques de Weddell.
Et donc, effectivement, tu arrives dans une zone ici. où tu découvres, évidemment, il y a une sortie par là, mais la salle est remplie de phoques de Weddell. Mais tu remarques que leurs têtes sont plus grosses que ceux que tu as déjà vus, avec des hauts sursuits, mais ils sont comme les fameux manchots, ils n'ont pas d'yeux.
Ils en ont pas du tout ou ils ont juste des blancs?
Non, ils en ont pas du tout.
Hein. Ouh, c'est bizarre.
Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui ont la gueule ouverte et ouais, enfin, fait super noir, faudrait que je m'approche. Je voulais juste voir s'ils allaient plus carnivores que.
Effectivement. Donc, ce que tu remarques aussi en jetant un coup d'œil dans la pièce, c'est qu'effectivement, il y a de nouveau un de ces tas de poissons. Et tu vois qu'il y a des phoques qui sont en train de manger. Et tu remarques qu'ils ont des mâchoires plus agressives, enfin plus dentées que leurs compatriotes de la surface. Et ils t'en donnent l'impression d'être un chouïa plus agressif.
Il y a. Ok, il y a moyen de sortir de l'autre côté, c'est ça que je vois? Il y a une sortie à la pièce?
Ouais, mais ça, t'es obligé de traverser la salle avec les phoques. Et évidemment, ils sont très volumineux. Enfin, ils sont plus volumineux que les manchots. Les manchots se tiennent droit, non, forcément.
En fait, ça ressemble à un zoo. Et les poissons, ben, c'est comme si le zookeeper vient donner la bouffe aux différents trucs. Est-ce qu'il n'y a pas d'accès à la flotte? Enfin, tu vois, d'ici, on a une rivière glacée, mais c'est pas suffisant pour une colonie de manchots, quoi.
Non, et si tu regardes, tu vois qu'effectivement, il y a un accès à la flotte ici.
Ouais, ok. Mais ça veut dire que les manchots devraient traverser les phoques de Weddell pour aller à la flotte.
Hein? Mais non, les manchots, ils sont là, donc ils passent ici, ils peuvent aller nager.
Ils peuvent aller dans la rivière.
Tandis que les phoques, ils ont carrément un accès direct à leur...
Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a moyen de longer le mur de droite pour arriver au truc en évitant un maximum les phoques de Weddell?
A priori, ça te semble difficile.
Monstrueux. Est-ce qu'il y a un passage parmi les phoques qui se... Non.
Ouais, ils se déplacent trop.
Non, je propose de faire demi-tour alors et de prendre l'autre embranchement.
Ok.
On va considérer que c'est plus ou moins un cul-de-sac, à moins que. Moins qu'on arrive à leur foutre la trouille, tu vois, ils plongent tous dans la flotte, mais. Comme ils ont l'air plus agressifs, ils risquent d'attaquer plutôt que de fouiller.
Donc, vous remontez vous êtes en train de réfléchir à des stratégies, mais pour l'instant, bon. Vous êtes dans une relative sécurité, donc. Vous pouvez toujours rebrousser les chemins. Mais tu arrives dans cette salle-ci. C'est une grande caverne à la forme irrégulière qui possède un plafond vraiment magnifique couvert de longs cristaux qui pendent et qui reflètent la lumière de vos torches en cascade d'arc-en-ciel. Et la salle fait une trentaine de mètres et on y trouve des arches, des voûtes qui sont tous dans ces cristaux. Voilà. Ah oui, au centre de la salle, alors que vous êtes en train de vous déplacer au milieu de ces énormes cristaux, il y a un cristaux noir qui s'y trouve, qui a l'air d'être une sorte de monolithe comme ça, et qui est particulièrement d'une taille imposante, et aussi il est fait dans un cristal noir et pas un cristal blanc comme les autres. Maintenant, tu remarques sur le monolithe qu'il y a toutes sortes de petites stries et de rayures et de...
Je demande, est-ce que c'est ce que vous pouvez lire? Est-ce que c'est une écriture, d'après vous, ou de scientifique allemand, là?
Meyer dit... en tout cas, ça ne ressemble pas du tout à l'écriture des choses très anciennes. Je ne sais même pas si c'est pas quelque chose... Enfin, je ne sais pas lire, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de naturel ou...
Ben, probablement pas. Ah,
mais... C'est très mystérieux en tout cas.
Bien. Ça émet de la chaleur.
La surface noire est incisée d'arcs, de spirales et de zigzags qui se chevauchent et s'entrelacent. Il n'y a pas de ligne directrice, dans le sens que tu vois pas un sens justement.
Ouais, tout à fait.
Mais t'as quand même une sorte de sentiment comme si t'étais un peu devant une œuvre d'art. Enfin, je veux dire, ton personnage est aussi troublé, parce que c'est vrai que ça n'a pas l'air spécialement naturel. Enfin, en tout cas, tu ne sais pas, tu connais pas de cristaux qui pourraient avoir cet effet-là, quoi.
Et quand tu dis qu'il est noir, il est opaque noir ou il est juste hyper foncé, mais quand même, il a une espèce de qualité transparente
Oui, il a une certaine qualité transparente. C'est-à-dire que quand tu projettes la lumière dessus, ça reflète. Il s'illumine un peu comme ça.
D'accord.
Le reste des cristaux, ouais.
Bon, je propose de le contourner à une distance de sécurité. On est approché pour regarder. On passe. Il y a une autre sortie à la pièce.
Ouais, effectivement, il y en a deux en fait. D'ailleurs, tu remarques que la rivière passe ici. En fait, tu peux t'imaginer qu'elle est en train de faire quelque chose comme ça, donc,
d'accord.
Qu'elle passe d'une salle à l'autre. Et alors, il y a une sortie par ici, une sortie par là.
À gauche, hein. On a commencé avec la gauche, on va continuer avec la gauche. Enfin, évidemment, je suis à l'écoute des propositions allemandes, donc si eux sont pas d'accord avec mes choix...
Bon, pour l'instant, ils n'ont pas... Ils sont d'accord avec toi qu'il faut être prudent. Mais mis à part ça, il faut bien aller quelque part, quoi.
Mais c'est ça.
T'es de nouveau dans une sorte de galerie. Et dans cette galerie, tu découvres que... tu commences à constater qu'il y a sur le au-dessus de vous, à la place des cristaux qui disparaissent, il y a une sorte des toiles collantes. Ça t'évoque des sortes de toiles d'araignées, mais qui auraient été tissées le long de la voûte, quoi. Une sorte d'entrelac très dense de toiles.
Une tapisserie de...
De toiles d'araignées, ouais, sur la hauteur, comme ça.
Parce que j'ai un peu de nourriture sur moi. Des biscuits ou du...
Ouais, tu dois avoir des vies, ouais.
Comment on appelle ? Pemmican,
ou un truc comme ça. Pemmican, ouais. Mais avant que tu... Alors que tu es en train de chercher pour ça...
Mais attends. Parce que à la seconde où je vois l'étoile, je recule, j'entraîne la pièce. Parce que... Voilà.
Donc là, t'as passé ton rayon sur l'étoile en hauteur.
C'est ça.
Et t'as reculé, et t'as songé à prendre de la nourriture. Mais en baissant, tu remarques maintenant qu'en fait, il y a des longs filins qui descendent. Ça fait pas une toile d'araignée devant toi, si tu veux.
Non, mais il y a des fils qui descendent. Au bout duquel
Il y a effectivement des sortes de petites araignées qui pendouillent.
Chouette. Et elles s'arrêtent ou elles se mettent au sol pour venir vers nous?
elles sont pour l'instant dans une parfaite immobilité. N'oubliez pas, hein, ces animaux, ils sont tous aveugles, donc elles ne perçoivent pas la lumière. Vous n'étiez pas encore au contact, mais tu vois, tu peux imaginer que c'est basé sur la vibration ou quelque chose comme ça.
Je prends un morceau de bouffe et je le jette dans la toile d'araignée depuis l'entrée de la pièce. Tu vois, prêt à partir dans la salle des cristals.
Ouais, effectivement, quand tu balances la nourriture dans la toile, enfin vers la toile, la nourriture traverse certains des filins qui pendent et elle atterrit sur le sol un peu plus loin. Et quand tu regardes, tu vois que si tu veux, il y a des filins qui sont accrochés à la viande et il y a des araignées qui sont en train de remonter pour aller attaquer, enfin pas attaquer, mais
voir quoi, ouais. Faire leur truc d'araignée, quoi.
Voilà.
Ok. On va voir l'autre pièce ici. C'est pas ça, une araignée, c'est dangereux que si c'est venimeux en fait. Ou à la limite, si c'est un espèce de truc de piranha qui peut te bouffer parce qu'ils sont 50 000. Mais comme on n'a pas la moindre idée de ce que c'est comme espèce de. Enfin, j'ai royalement 6 en biologie en fait.
Ouais. Bah, de toute façon, ouais. Ce que tu peux te dire pragmatiquement, c'est que ça serait impossible de traverser la salle sans choper quelques-uns des fils qui pendouillent. Comme tu dis, si c'est des araignées vénéneuses, c'est de toute façon.
C'est peut-être pas la bonne idée, ouais.
C'est pas la bonne idée.
Parce que je me suis dit, peut-être en rampant, il y a moyen de passer en dessous. Ça dépend à quelle hauteur tu vas y pendouiller, mais.
Ouais,
mais s'il pendouille, très bas, alors laisse tomber quoi.
En rampant, c'est peut-être faisable, mais...
Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je vois une sortie de, à l'autre extrémité, en fait?
Ça, c'est un couloir, donc il continue.
Ah, c'est un couloir, oui, mais
c'est pas une salle.
Malheureusement, dû à un petit problème technique, on a donc perdu une partie de l'enregistrement de... de cette aventure solo de, d'Hidalgo Cruz. Heureusement, la partie qu'on a perdue n'est pas très, n'a pas de conséquences dans l'histoire plus générale. Il s'agit juste d'une partie de, d'exploration des cavernes des profondeurs. Donc, comme vous avez pu entendre jusqu'à présent, Hidalgo Cruz se trouve dans un réseau de galeries où il y a toutes sortes d'animaux étranges et mystérieux. Après, donc encore un peu plus d'exploration, il a découvert que cette zone était en fait une sorte de zoo ou une ménagerie qui appartient à un shogot, et ce shogot donc entretient, donne de la nourriture à son zoo personnel. Et donc une fois qu'il a découvert qu'il était prisonnier de ce zoo avec tous ses animaux, bon, la question c'était comment s'en échapper. Et finalement, il a choisi d'opter pour la patience, c'est-à-dire que le shogot en question se trouvait à l'entrée, la seule sortie que qu'il pouvait emprunter avec les deux Allemands. Et donc, il a attendu simplement que le shogot, en étant le plus discret possible, puisque le shogot ignorait sa présence dans, dans la ménagerie, il a simplement attendu que le shogot en question aille pêcher, ça il le sait pas, mais en tout cas s'éloigne du zoo. Donc en fait, il s'éloignait du zoo pour aller chercher de la nourriture dans la mer intérieure pour la ramener à son, aux animaux qui habitent le zoo. Et donc dès que le shogot est parti de la position qu'il occupait dans, à la sortie de la ménagerie, lui et les deux Allemands, Hidalgo Cruz et les deux Allemands se sont rués vers la sortie. Et donc ils sont arrivés à la mer intérieure, donc cette immense mer souterraine en dessous de la cité des choses très anciennes. Et c'est là que nous reprenons notre histoire, c'est-à-dire que Hidalgo Cruz et les deux Allemands viennent juste de débouler en dehors de la ménagerie, en dehors du zoo, et ont découvert le spectacle de la mer intérieure peuplée de shogot. Et Hidalgo Cruz a d'ailleurs perdu quelque peu de santé mentale à l'occasion, et nous reprenons donc le récit à cet endroit-là.
Pour nos auditeurs, maintenant qu'on sait qu'on en a, merci beaucoup de nous écouter d'ailleurs. Donc après avoir exploré le zoo, nommons-le comme ça, et avoir conclu qu'un shogot attendait à l'entrée du zoo, notre plan a été simplement d'attendre que le shogot parte pour sortir. Donc on s'est caché dans la salle où la nourriture était stockée, et quand nous avons entendu que le shogot partait, on a décidé de se ruer vers la sortie. Une fois sorti de l'endroit où le shogot attendait ou dormait, je sais pas, on s'est retrouvé dans une énorme caverne, la mer intérieure, dans le noir. On a vu des shogots qui batifolaient dans l'eau avec leurs petits yeux rouges tout mignons. L'investigateur qui est présent a perdu 10 points de santé mentale et est donc sous le coup d'une peur panique. Voilà, qui lui a fait perdre une partie de ses moyens. Et on a décidé de progresser vers la gauche, après avoir éteint notre torche, parce qu'il y a une espèce de promontoire sur la gauche et qu'à droite, par contre, on voit rien. Y a rien. Enfin, bien que je sais pas trop comment on voit qu'il y a un promontoire dans le noir, mais apparemment on l'a vu quand même.
Et oui, d'ailleurs, maintenant vous êtes, tu te mets à progresser avec les deux Allemands donc le long de la falaise, et en progressant, tu remarques qu'il y a les fameux stricts à observer dans le zoo, qui sont sur cette paroi-là, et si tu regardes un peu vers la hauteur, avec la lumière générée un peu par... Oui, il y a quand même la fameuse des mousses et tout ça, hein, qui génère un peu de la lumière.
Ah, ouf.
Mais ouais, vous n'êtes pas complètement dans l'obscurité. Et tu remarques que ces stries, qui sont des sortes d'encoches dans la paroi, montent jusqu'à à peu près 7 mètres, et puis s'arrêtent. Après, c'est la grotte est normale au-dessus.
Et alors, à vue de nez,
ouais,
les shogots font 7 mètres.
Probablement que les chogottes les plus grands peuvent atteindre cette hauteur-là.
Ok. Donc ce serait les chogottes qui feraient ça.
Voilà. Et donc tu longes, donc maintenant que tu es sorti du zoo et vous êtes tourné sur la gauche, vous longez la fameuse falaise, tu dépasses le promontoire dont on parlait. Et une fois que tu as dépassé le promontoire, au tournant du promontoire, au loin, sur la fameuse plage devant la mer engloutie, tu vois une sorte de phare, une colonne avec au sommet de cette colonne quelque chose qui émet de la lumière. Et tu éprouves un soulagement parce que ça, tu l'as déjà vu quand tu étais au Pléistocène. Donc, dans la séquence où tu étais descendu la rampe avec
l'hominidé,
quand vous étiez arrivé en bas, quand vous aviez vu les chogottes en train de pêcher pour les choses très anciennes, tu avais remarqué. Enfin, maintenant que tu vois cette lumière, tu te souviens que cette lumière était là à l'époque, qu'il y avait effectivement une sorte de pilier avec au-dessus quelque chose qui mettait de la lumière. Évidemment, le décor a très, très fort changé depuis, mais tu sais que ton personnage sait que non loin, donc du coup, dans la falaise, non loin de ce. Puisque vous l'aviez devant vous quand vous étiez descendu de la rampe, la rampe doit être.
Pas trop loin.
Pas trop loin de ce phare.
De ce lampadaire. Magnifique. Eh ben, toujours sous le coup de la peur. Panique de me faire bouffer par un chogot, je me déplace aussi vite que possible vers le phare en question, tout en prenant bien soin qu'il n'y ait pas de petits yeux rouges à proximité. Je suis très attentif aux yeux rouges. Ou de toutes couleurs d'ailleurs. En fait, les chogots, ils me font penser un peu au mou dans Nausicaa.
Ah, je connais pas, non. Mais... Ah! Le dessin animé de
Miyazaki.
De Miyazaki, oh, je l'ai jamais vu en fait.
Et la BD de Miyazaki aussi. Ouais. Ah bah tu regarderas, je peux te montrer sur internet tout à l'heure. Les Omu. Grands insectes. Là, ils sont assez. Ils sont plus gentils que méchants.
Donc maintenant que t'as dépassé cette zone-ci.
Ouais.
Donc tu vois le. Enfin, bon, ici ça disparaît par là. Tu vois le phare, entre guillemets, on va l'appeler. Et donc ici, il y avait la mer, et c'est là que tu voyais avant plein de chogottes, mais maintenant, en regardant par ici, dans cette zone-ci, tu vois énormément de mouvements chogottes, en fait.
Ah merde!
Et donc, oui, en fait, comme ils disent, la route vers la sortie si proche devient soudainement très lointaine.
Et donc,
ici, les autres chogottes étaient dans la mer, mais là, c'est des chogottes qui sont sur la
mais ici,
sur
ici, la plage. Ici, c'est de la falaise, alors. Ici, c'est de la falaise.
Non, la falaise, elle est ici. Hein. Ici, c'est la mer.
Ah oui, ici, mais ça, c'est quoi,
plage.
Alors
c'est la plage.
Ah oui, c'est la plage, ok.
Donc, jusqu'à présent, t'avais vu que des chogottes en train de nager, si tu veux.
Là-bas.
Voilà, tandis que maintenant, tu découvres que cette zone-ci, cette plage-ci, apparemment, c'est une zone d'habitation des chogottes. Et donc,
Est-ce qu'il y a moyen de... Et ici, sur la plage, est-ce que je vois des chogottes?
Oui, c'est ça, c'est sur la plage, je te dis, une demi-douzaine en tout cas, ou une douzaine, ouais, une demi-douzaine, qui va qu'à leurs occupations.
Ouais.
Du coup, la question c'est comment arriver, si tu postules que ici est le phare et que, bon, tu vois pas trop comment ça se passe par ici, mais que la rampe se trouve là, comment tu vas l'atteindre?
Pas en nageant. Est-ce qu'il y a moyen d'escalader la paroi?
Oui, effectivement, il y a moyen avec en regardant les stries de la paroi, ce que tu supputes a été créé par
les chogottes. Ouais.
C'est des profondes encoches, donc en fait.
Ça donne des prises.
Ça donne des prises très aisées pour essayer d'escalader en fait.
Et bon, on va essayer de faire ça. Sauf qu'évidemment, s'il y a des encoches, c'est que les chogottes peuvent aller jusque-là, donc s'ils nous remarquent, on est mort.
C'est mieux que d'essayer de courir au milieu des chocottes pour l'heure.
Ouais, je pense. Je pense. Parce que l'autre option, c'est de faire semblant qu'on est un marchand ambulant sur la plage avec, je sais pas moi. Mais ils vont vite remarquer qu'on a rien à vendre en fait. Et donc on n'est pas des vrais marchands. Et ça, ils vont probablement pas aimer.
Ouais, il y a Meyer qui dit. Ouais, c'est peut-être une bonne idée, mais.
Non, pas de
mais sinon, on pourrait essayer de faire comme dans l'Odyssée. Ulysse est caché au milieu d'un troupeau de moutons. On pourrait essayer de se mettre au milieu des manchots et essayer de les diriger un peu. Et peut-être que les shoguns ne remarqueraient pas.
Non. Non, j'aime pas ce plan. Moi, j'aime bien le plan. Je passe par la falaise en escaladant.
Ok.
En fait, parce que c'est vrai qu'il y a des manchots un peu partout. Il y a des phoques et des machins.
Donc, tu commences à escalader la paroi et...
Réussi.
Ouais. De toute façon, en plus, t'as un bonus parce que c'est vraiment très facile à escalader. Et Rilke et Mayer arrivent à te suivre sans trop de difficultés.
Malgré sa main qui tremble et tout.
Bah, c'est surtout qu'il a de la fièvre. Enfin, il semble avoir de la fièvre en tout cas, mais ça va, il sera... Le stress aide. Donc vous montez le plus haut possible que vous pouvez, donc vers 7 mètres de haut, et vous commencez à progresser le long de la falaise.
Ouais, en fait, la plage, j'imaginais vide, en fait. Quand t'as dit qu'il y avait des shoguts partout, pour moi, je voyais pas d'autres formes de vie, vraiment, que... Je voyais que des shoguts, une plage, des shoguts, de l'eau.
Non, il y a les fameux manchots et les phoques de Weddell. Hein. Il faut quand même que tu me fasses un geste de discrétion. Là.
Raté.
Enfin,
je pense, hein, attends, je regarde. Discrétion, c'est où? Discrétion... Ah ouais, non, raté. J'ai que 45, je fais 67.
Ok, donc il y a un shoguk qui remarque que vous êtes en train d'escalader. Donc il se tourne vers vous et vient vous observer. Mais c'est un shoguk de taille moyenne, donc vous êtes trop haut. Alors, en fait, il a l'air plus intrigué par ce que vous faites qu'autre chose. Donc il vous observe et vous êtes en train de progresser. Et lui, il est juste en dessous et il vous suit en poussant des petits chointements d'intérêt, d'excitation.
Ok, j'ai rien vu, je nie la réalité, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de shoguts qui m'observent. Je continue à me déplacer.
T'as bien progressé, le petit shoguts, enfin le shoguts de taille moyenne est toujours en dessous. Tout d'un coup, tu vois un plus gros shoguts, une quinzaine de mètres.
Papa shoguts.
Qui arrive par là et qui se rue sur le plus petit shoguts. Et donc en dessous de vous, il y a les deux shoguts qui commencent à se battre. Et vous pouvez remarquer qu'ils s'arrachent des morceaux d'eux-mêmes. Enfin, non, c'est pas. Ils arrachent des morceaux de l'autre, ils les projettent à distance.
Je ne le remarque même pas parce que je suis focus sur j'avance, je les laisse entrebouffer. C'est quoi ce merdier?
Et alors que t'es en train de continuer à escalader, tu peux juste voir des morceaux de chocotte qui volent autour de vous, qui sont projetés à une certaine
distance. C'est des malades.
Et puis tout d'un coup le combat se termine et puis ils se séparent tous les deux et ils s'éloignent, donc il n'y a plus de chocotte qui vous suit et t'arrives effectivement à la rampe. Donc vous descendez du bazar et vous êtes à la fameuse rampe que vous avez utilisée donc quand vous étiez dans le Pestiostène pour descendre.
Ben non, on va là remonter et en quatrième vitesse.
Donc c'est une pente très ardue. Vous êtes déjà épuisé par tout ce que vous avez vécu, donc vous êtes en train de courir, mais vaille que vaille. Mais bon, ouais. C'est un effort, c'est comme courir dans un marathon.
Ouais, mais je suis quand même une brute.
Ouais, mais bon, t'as les six autres qui te suivent en haletant difficilement. Le chemin vers la surface est plus large et plus monolithique que les autres tunnels abyssaux. C'est une route droite spacieuse de section trapézoïdale, mesurant 5 mètres de hauteur en son centre et plus de 10 mètres de large. Le sol est en pierre polie, sans aucune des rainures de traction fréquentes dans les bâtiments de choses anciennes. Ouais.
Ok. Est-ce qu'il y a encore des traces d'activité shoguts?
Oui, il y a toujours des traces.
Ok, donc ils viennent jusqu'ici, on continue à avancer.
Donc, tu as monté. Donc, la pente est assez raide, avec un angle de près de 30 degrés, et l'ascension est épuisante. Vous devez vous repaiser régulièrement pour éviter les vertiges. Mm-hmm. Et
Est-ce qu'on commence à voir la lumière?
C'est plusieurs kilomètres.
Ah ouais, carrément.
Ah ouais, ouais, c'est long, ouais. Et tu remarques sur le côté, il y a régulièrement des ouvertures vers des tunnels dans la grotte. Mmh. Et puis finalement, vous commencez à avoir des premiers signes de dégradation des parois, des crevasses et des fissures. Et puis 300 mètres plus loin, vous poussez un hurlement de désespoir quand vous constatez que la rampe s'est effondrée et que vous ne pouvez plus passer. Aucun souffle d'air ne laisse penser que le passage peut être dégagé. Donc tout s'est effondré, donc la rampe s'est terminée.
Super.
Ça aurait été trop facile.
Ben, on va explorer les petites... déjà, on va reprendre notre souffle.
Et à ce moment-là, évidemment, tu entends le bruit de plusieurs chogottes qui sont en train de remonter la rampe. Et tu entends les fameux tekilili, tekilili.
Eh ben, on va même pas se reposer, on va foncer dans les petites galeries qu'il y a sur le côté, et puis un peu comme quand on était l'hominidé et qu'on s'était jeté dans une galerie.
Oui, tout à fait, en fait c'est exactement, vous jetez dans une galerie pour fuir les chocottes qui sont en train de monter la rampe, parce qu'apparemment ils ont détecté votre présence, et donc ils sont en train de vous poursuivre. Et quand tu te jettes dans un tunnel, tu t'engages là-dedans, tu remarques en fait c'est un des tunnels utilisés par l'hominidé, donc tu te reconnais plus ou moins.
Ah cool. Fonce.
Et donc t'entends le bruit des chogottes qui passent comme la fameuse rame de métro qui passe à côté derrière dans le tunnel principal. Vous continuez à passer dans les couloirs, mais là vous êtes comme l'hominidé l'avait fait, vous êtes en train de courir droite-gauche, c'est un petit labyrinthe, mais tu reproduis son trajet, en fait, parce que tu sais qu'il avait pris une autre rampe pour remonter, donc tu reproduis son trajet, mais tu continues à entendre le bruit des chogottes qui visiblement sont engagés dans les petits tunnels maintenant pour vous poursuivre.
Super. Que ça a foutre.
Et donc, tu cours très très, vous courez aussi vite que vous pouvez avec le bruit derrière vous des chouinements de locomotive qui vous poursuivent.
Absolument.
Et tout d'un coup, après une course-poursuite de peut-être un quart d'heure dans les tunnels, vous arrivez donc dans une caverne en forme de croissant d'environ 10 mètres de longueur sur 2 mètres et demi de haut. Évidemment, ça t'évoque directement une des salles où tu étais allé avec le mini-dé.
Ok.
C'était une de salles avant la fameuse baignoire avec le chocolat, l'infâme.
Oui. On va arriver dans la pièce toute ronde avec le trou au centre.
Dans la salle juste avant la salle ronde.
Ok, on fonce. On fait gaffe évidemment dans la salle ronde de pas se péter la gueule quand on arrive.
Non, on n'en va pas si vite. Évidemment, l'environnement a changé depuis la dernière fois que tu l'as vu. Et tu remarques que là où il y a la salle ronde, il y a de la lumière qui provient de là. Et évidemment, sinon la salle.
Comme si des salles comme ça changeait après des centaines de milliers d'années, enfin.
Donc, t'arrives dans la. Enfin, tu te diriges vers la salle de la bulle, et il y a cette fameuse lumière qui a été émise. Mais bon, comme t'as les autres chocottes sur tes talons, tu te dis que t'es motivé à foncer, de toute façon, t'as pas d'autre chemin. Donc,
C'est ça quoi. Et moi, mon seul. Le froid. Je vise le froid.
Donc tu arrives dans cette fameuse sphère, c'est la fameuse bulle, exactement, ça elle n'a pas tellement changé. Tu te souviens qu'il y avait une ouverture...
Un trou dans l'autre.
Oui, il y avait un trou dans les profondeurs, il y avait une ouverture-ci, une ouverture-là.
Exactement.
Latérale. Mais il y a quelque chose qui a changé, c'est quand...
L'ouverture latérale n'est plus là.
Non, elle est là, oui, mais... Non, ce qu'il y a, c'est que la bulle est remplie par un chogot, en fait. Et la lumière que tu vois, c'est la surface du chogot. Donc... immense chogot qui remplit la sphère, et quand t'arrives t'as juste un mur avec la surface du chogot, mais il a pas l'air de vous remarquer très fort. Il est gigantesque, hein. C'est le plus grand chogot que t'aies jamais vu.
Ok, on va longer le chogot.
Et attends, parce que donc si tu te souviens, il y avait le trou, hein.
Ouais.
Donc évidemment le chogot est posé sur le fameux trou.
Ouais.
Et maintenant tu...
Elle fait caca.
Donc t'as la sphère et dans le chogot. Pour l'instant, c'est impossible de traverser. Donc, à cause de... Le Shoggoth est tellement gros qu'il occupe pas l'entièreté de la salle, mais c'est impossible de traverser sans que le Shoggoth vous remarque, de toute façon. Pour l'instant, il est trop occupé, parce que tu remarques qu'en fait, il y a quelque chose qui sort de son corps, qui est une de ces fameuses protovies, une de ces insectes primitifs, qui se met à... Il l'avait à l'intérieur et qui sort de sa surface, commence à ramper le long de la surface, et puis le Shoggoth forme vite une sorte de tubule, vient le choper, puis forme une bouche et le bouffe. Et il est occupé à faire ça, et ça, il a l'air très content de s'amuser à régurgiter et rebouffer des, des protovies. C'est une activité comme une autre. Oui, donc là vous êtes dans un moment d'intense désespoir, figé, vous ne savez plus quoi faire. Et vous remarquez que de l'autre côté, la fameuse haute sortie, il y a. Vous entendez des cris d'oiseaux comme ça, des cris de goélands ou de mouettes, d'oiseaux de mer. Ah non, qu'est-ce que je raconte ? C'est des manchots évidemment. Des cris de manchots, et vous voyez donc par l'autre sortie, donc celle où vous voudrez empâter, il y a un petit Shoggoth qui est en train de. Un petit Shoggoth, tu vois, de 5 mètres. Qui est en train de pousser trois manchots vers le gros. Visiblement il pousse les manchots dans la direction du gros qui est dans qui occupe le fond de la sphère, et quand le gros Shoggoth voit ça, il s'élève quoi dans la sphère pour aller manger les
j'en profite pour glisser en dessous de lui pour
Donc le petit Shoggoth pousse les manchots dans la gueule qui est en train de se former du gros Shoggoth, et donc tu vois les manchots en train de disparaître dans la masse de l'énorme Shoggoth, hein, ils sont broyés à l'intérieur, t'entends les bruits. Et alors comme il s'est soulevé, tu te souviens que dans ce trou il y avait il y avait la masse d'insectes. Maintenant le trou est beaucoup plus grand, il fait 3 mètres de large.
Oui.
Et donc, une fois que le trou s'est dévoilé, d'ailleurs il y a Phil qui dit que ce sont les enfants de la source éternelle. Il y a une masse gigantesque de ces créatures qui sortent, des corps souples et lisses qui se dévorent et s'entre-déchirent. C'est un aussi petit que des chiens, d'autres aussi gros que des buffles. Donc c'est ici un mille pattes obèse et sans tête, là un ver musculeux. Là-bas un immense sac collant aux épines suintantes de poissons.
Ou pas.
Oui, c'était pour ça que je dis non, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc évidemment, c'est ce que tu avais vu avant, mais ils ont grossi, grandi, et le gros Shoggoth est juste assis sur eux, il forme une sorte de bouchon sur le trou de 3 mètres de large, de toute façon. Et alors, au moment où il fait ça, donc le gros Shoggoth ouvre un orifice béant au milieu, donc il se forme un tunnel du haut vers le bas. Et le petit Shoggoth passe à l'intérieur de lui et il se jette sur les proto-créatures qui sont en dessous. Et donc vous constatez, tu observes la bataille sauvage entre le petit Shoggoth en dessous du énorme Shoggoth. Ça va
jusqu'à là, ça va, ouais.
Qui, le petit Shoggoth, donc affronte toutes sortes de ces proto-créatures dans un combat féroce, sans pitié et extrêmement choquant, en mêlant leurs corps et leurs membres. Ils s'étripent furieusement. Tu dois me faire un jet de santé mentale.
Raté ? Ah non, réussi.
Ouais, donc tu perds juste un point de santé mentale. Ouh.
Ok.
La bataille dure peut-être.
C'est un point de santé mentale du Shoggoth aussi ou pas ? Ou
non,
c'est la scène ?
C'est la scène en même.
Ok.
La bataille dure à peu près 10 minutes.
Mais attends, il y a des Shoggoths qui nous poursuivent là.
Oui, maintenant tu les entends plus derrière.
Ouf, ok, alors ça va, on peut se calmer 2 secondes. C'est pour ça que moi j'étais. J'étais au taquet pour me casser.
Bah maintenant tu constates qu'effectivement les autres Shoggoths ne sont pas venus jusqu'ici, quoi. Ça c'est le territoire de ce Shoggoth-ci.
Ok,
Tu peux en conclure qu'ils ne veulent pas venir ici, quoi.
C'est méga Shoggoth.
Il l'appelle le Shoggoth Rex d'ailleurs. Mais c'est le territoire des Shoggoth Rex, donc ils viennent pas juste.
Et c'est son petit protégé, l'autre.
Donc, le petit Shoggoth est plus gros que n'importe quelle des proto-créatures, mais elles sont nombreuses. Il en détruit 5, puis 6 avant de refluer vers le Shoggoth Rex dans un cri, cherchant à battre en retraite. Donc, en fait, le petit Shoggoth est
Et quand même blessé.
Il est blessé, oui, par les créateurs du dessous, oui, les proto-créateurs. Oui, son data d'un buffle ou d'une. Qu'est-ce qu'ils disent?
Ouais, un buffle est plus gros, ouais, absolument.
Ces derniers, donc le Shoggoth Rex ouvre ses mâchoires et attire dans son corps le petit Shoggoth, encore luisant et gluant de l'icor de l'engeance tuée. Les survivants, l'engeance, hein. Les autres créatures se battent entre elles pour dévorer leurs compagnons abattus, tandis que le Shoggoth Rex hisse son corps épais jusqu'à l'ouverture en face et quitte la bulle. Donc effectivement, il a assimilé le petit Shoggoth à l'intérieur, et il est sorti par la sortie que vous voulez prendre. Mais bon.
Chers amis auditeurs, je me fais un facepalm géant.
C'est le joueur qui a perdu la santé mentale. La première fois que je l'ai lu, la description, je me suis dit putain, c'est hardcore quoi. Ça, c'est de l'appel de Cthulhu.
Je crois que je me mets en boule et je commence à sangloter. Ou pas.
Donc. Oui, donc Hilk dit.
Non.
Non, il dit « Je ne crois pas que j'ai besoin d'aller maintenant. » Mais donc, pendant que vous avez observé la scène, il murmurait des choses à propos de ce qu'il a lu dans le fameux Necronomicon, qu'il y aurait une entité qui s'appelle Ubosatla, qui aurait été sur Terre avant l'apparition de toute forme de vie. Et cette entité... aurait créé les premières formes de vie. Et donc cette entité se trouve, d'après les mythes et légendes, quelque part dans les profondeurs de la Terre, peut-être en dessous de l'Antarctique, évidemment. Ubosatla. Et donc ces premières proto-créatures qui prédatent toute vie sur Terre sont nommées l'engeance d'Ubosatla. Mais comme tu dis, il est plus très motivé à aller visiter en bas maintenant. Donc vous devez traverser la grotte.
Oui.
Dans la bulle, il faut quand même faire un jet d'athlétisme pour traverser.
Réussi.
Il y a les... on va dire que... t'arrives à passer. Meyer et Rilk aussi arrivent à te suivre. Malgré le sol glissant, ici c'est assez difficile, et que les proto-créatures dans le trou continuent à s'affronter, mais elles sont tellement occupées à s'entretuer qu'elles ne vous remarquent même pas. Et vous arrivez à ressortir de l'autre côté.
Bon, ben sur les traces du Rex, hein.
Voilà. Et donc maintenant, effectivement, vous avez bien capté, vous avez bien compris que le sol, en fait, lisse, c'est juste parce que la surface des Shoggoths est faite d'une sorte d'acide, donc chaque fois qu'il passe, le sol devient lisse parce qu'en fait, c'est comme si c'était fait d'acide, donc il lisse le sol des parois, quoi.
C'est dingue comme il n'y a pas une seule créature du mythe qui a un truc gentil, mignon... Avec un peu de fourrure, avec des grands yeux. Non. Des trucs innommables, absolument immondes.
Je crois que le Shoggoth, c'est la créature qu'on imagine quand on parle d'une créature du mythe. C'est juste un amas de tentacules. Donc tu passes dans l'autre salle. Dans la salle où il y avait la baignoire avant, mais maintenant la baignoire est privée. Enfin, privée. C'est le nom du mot qui est marqué, c'est le domaine privé du Shoggoth, mais ça je l'avais déjà dit. Non, mais il n'y a plus d'eau. La salle est vide pour l'instant, évidemment, puisque le Shoggoth Rex est parti. Et puis tu arrives dans la salle suivante. Et donc là, tu aperçois donc une rampe qui donne vers la mer. Et au moment où tu arrives vers la mer engloutie, au moment où vous arrivez dans cette salle, vous voyez l'énorme Shoggoth Rex qui se met sur cette rampe, qui est une sorte de toboggan, et vous le voyez disparaître. Vous l'entendez glisser le long de la rampe et vous entendez un énorme splash quand il atterrit dans la mer. Ils aiment bien aller se baigner.
Ouais, il a sa bouée et tout.
Et par contre, dans le coin de la pièce, tu aperçois le petit Shoggoth qui pousse des petits tekelili, il a été gravement blessé, donc il a l'air de se faire des petits mouvements pour se réconforter.
Il se lèche les plaies, quoi.
Voilà, et il ne se préoccupe pas de votre passage.
Ok, ben on passe. De toute façon, j'ai mon cattle prod là en main. Si on a un gremlin de nous attaquer, on va lui rappeler le bon vieux temps avant de mourir. Dans d'atroces souffrances. Ou pas, ils ont l'air de. Ils ont des... Ça, c'est quand même le truc qui a l'air sympa avec les chevaux, c'est que quand ils te tuent, ils te font pas souffrir.
Tu te fais absorber, c'est disséquer directement l'intérieur de l'estomac.
Exactement, je crois que t'es broyé. T'as pas trop le temps de souffrir.
Et ben, une fois que t'as passé ça, t'arrives à la... l'autre rampe qu'avait employé l'hominidé. Et tu commences à remonter évidemment la rampe. Le tunnel s'élève abruptement à un angle de 30 degrés, où c'est grosso modo plus de rampe que la précédente. Mais cette fois-ci, aucun obstacle, les boulis ne vous stoppent.
On sent le doux froid dans l'Antarctique.
L'air est de plus en plus frais au mesure de l'ascension. Une faible brume vaporeuse se lève. Et vous n'entendez pas de bruit de poursuite, donc. Et puis au fur et à mesure de l'ascension de la rampe, les signes de la présence des chevaux disparaissent. Et vous commencez à voir des signes de l'architecture, des choses très anciennes. Et puis vous arrivez en dessous d'une tour, donc vous êtes en train de remonter maintenant. En fait, vous arrivez en dessous d'une tour avec une spirale, vous remontez la spirale. Et vous arrivez sain et sauf à la surface de la cité. Évidemment, Maillard et Rilk sont.
Sain et sauf.
Oui, malgré des sérieux sports de.
De santé mentale et. Bon.
Et évidemment, Rilk est toujours en train de marmonner à propos du bot salt là et que les livres anciens étaient vrais. Et qui doit profonder. Ubotsat là doit certainement être dans les profondeurs.
Ok, donc c'est un cultiste de Ubotsat là.
La source de toute vie.
Ok.
Et je suppose que tu retournes au camp avec eux, au camp des Allemands.
Ouais. Ah. Non. J'ai les pièces de l'avion.
Oui, mais c'est pour l'avion de Lexington qui se trouve au camp Lexington et des Allemands.
Ah oui, d'accord. Oui, alors oui.
Voilà, donc tu retournes au camp des Allemands et de Lexington. Tu donnes les pièces pour la réparation. Effectivement, tu...
Et mes coéquipiers ?
Les autres... Enfin, je veux dire, là, il n'y a aucun des membres de l'expédition Star Quadermoor dans ce camp pour le moment.
Je demande si ils ont été vus récemment, ou s'ils sont revenus de... Parce que nous, ça fait quoi? Ça fait 3 heures, 4 heures, 5 heures qu'on est...
Non, ça fait probablement que tu as passé une journée complète. Parce que tu avais été sombré dans l'inconscience après la chute. Donc là, maintenant, en fait, on est à la fin du 10 décembre. Juste avant que la brume se lève. Et évidemment, après tout ce que tu as vécu dans les profondeurs, et maintenant que la mission est accomplie, que tu as pu rapporter les pièces, donc l'ingénieur de...
Je m'écroule de fatigue.
Voilà, tu t'écroules de fatigue. Mais tu as quand même le temps de remarquer que la blessure de la morsure s'était infectée. Oh, et tu remarques qu'il y a des mouvements en fait dans la blessure, en dessous de la peau, comme s'il y avait des vers en dessous qui se déplaçaient.
Il y a un médecin dans le camp Lexington et allemand.
Non, il n'y a plus de médecin maintenant, je crois. Non, il n'y a plus de médecin.
Il y a des biologistes. Meyer ou Rilk ne sont pas biologistes.
Oui, si, il y a des biologistes dans le tas.
Mais est-ce qu'ils peuvent pas m'aider, du coup?
Oui, tu peux voir Rilk qui se sent de plus en plus mal, mais Meyer prend un couteau et alors il ouvre la blessure en te maintenant le bras. Il y a tous des vers qui sont en train de grouiller dedans. Des vers sans yeux, évidemment. Mmh. Et il les retire tous de la plaie, il les écrase avec sa botte. Et après, un bandage, ça met ta blessure. Et évidemment, après tout ça, t'es tellement crevé que tu t'effondres de fatigue.
Oui.
Et suite au prochain épisode.
Waouh. C'est bon, moi, je peux voir merde.